RMC.
J'ai apporté une sélection de plantes vivaces que nous pourrions échanger.
6h-7h, votre jardin.
Est-ce la 4 saisons?
Oui, je pense que oui.
Divine, la couleur tout autant.
François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 6h17. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur RMC. Quel plaisir de vous retrouver. On va passer cette matinée ensemble jusqu'à 10h avec, vous le savez, vos quatre rendez-vous du samedi matin. Tout à l'heure, la vie numérique avec Raphaël Grably. On va parler de Linky, vous savez, ce fameux compteur électrique connecté qui fait couler beaucoup d'encre. On fera le point sur le compteur Linky et vous allez pouvoir vous déchaîner au 32-16. Christian Requia sera là entre 8 et 9 et on évoquera l'alimentation, savoir repérer et acheter des produits de qualité. Christian va tout nous dire. Dans notre rendez-vous maison, vous le savez, avec Christian PC qui sera là, on évoquera les dépannages d'urgence qui sont l'objet de bien des abus, pour ne pas dire d'arnaque. Je ne sais pas, vous cassez votre clé de votre porte d'entrée en pleine nuit, ça va vous coûter une blinde. Comment éviter ça? On verra ça, là aussi, tout à l'heure. Et comment repérer les bons artisans? Bien évidemment, en fil rouge, vos questions au 32-16 à tous nos experts. Vous avez l'appli RMC Direct Studio. Vous pouvez là aussi nous laisser un message avec votre numéro de téléphone. Et pour débuter, c'est Patrick Mulan qui est là. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Et très bien vu dans notre petit jardin un peu frileux ce matin, mais qui sera beau après.
Alors, au menu de cette heure dédiée au jardin, Patrick. Tout à l'heure, on va parler du citronnier et des agrumes.
Oui, voilà, tout le genre citrus, c'est... En ce moment, ils sont en fruits, en fleurs. On ne sait pas trop bien comment aussi les garder dehors, dedans, voilà. Et puis, on parlera avec Christian Requia, qui sera notre invité exceptionnel, je dirais, un peu de ce que ça nous apporte sur le plan nutritif et peut-être même protection de la santé.
Très bien. Et puis, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions au 32-16. Le conseil de l'espère aussi dans un instant. Que doit-on faire pour les pelouses en ce moment? Vous allez nous donner quelques conseils. Mais on va débuter exceptionnellement, s'il vous plaît, par Chris qui nous attend au 32-16 et qui est là. Bonjour Chris, est-ce que Paul peut la mettre à l'antenne? Parce que bien évidemment, mon système électronique de tableau de bord A380 ne fonctionne pas. Chris, bonjour, bienvenue.
Bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Chris, bienvenue.
Très heureuse d'être avec vous ce matin.
Bah écoutez, pareillement Chris, on vous écoute.
Merci, c'est gentil. Moi je vous appelle parce que je suis dans le Gers et j'ai un plaqueux minier qui donne très bien tous les ans, mais sauf qu'il est un peu près de la piscine. Hein. Et donc, il faudrait que je taille un peu les branches, quoi. Voilà. Le tronc n'est pas très très gros, hein. Ça vient pas très très gros, ces troncs-là, mais bon, c'est les branches qui sont un petit peu débordantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Normalement, on les taille pas, mais c'est pas parce qu'il faut pas. C'est de toute façon, quand on a besoin de tailler, il va falloir le faire, je dirais, avec parcimonie, en essayant de respecter la plante. Alors, respecter la plante, ça veut dire quoi? Ça veut dire conserver sa silhouette naturelle. Donc, à savoir que si vous coupez côté piscine, il va falloir rééquilibrer de l'autre côté, de manière à ce que votre plante, elle conserve une silhouette harmonieuse et surtout symétrique. Après cela, bien entendu, on taille toujours au-dessus d'une jeune pousse ou d'un œil, c'est-à-dire donc un bourgeon dormant. C'est la période. Ça aurait pu même se faire juste après la récolte des fruits, hein, donc pendant toute la période de repos végétatif. Et puis donc d'y aller légèrement, quoi, on va dire.
Est-ce que je peux étêter un peu en haut?
Oui, si vous étêtez, ça va vous permettre d'avoir une ramification. Hein. Ça évite que la plante parte tout en hauteur et donc elle va plutôt prendre une silhouette un petit peu arrondie. Et ça, non, c'est plutôt très bien ça. Il y a pas de problème.
D'accord. Hein. Donc, excusez-moi, j'aurais encore une deuxième question à vous poser rapidement. J'ai un grand cyprès qui a été planté il y a presque une dizaine d'années. Il fait 8 mètres de haut maintenant. Il est contre la maison. Il n'y a pas de risque. Il va continuer de grandir jusqu'à quand, là?
Ça dépend du type de cyprès. Mais par exemple, les cyprès de Lambert, les Cupressus macrocarpa, ça peut faire largement plus de 20 mètres de hauteur. Il faut que je tire les oreilles des jardiniers amateurs qui pensent pas à ça, mais quand vous achetez une plante, quelle qu'elle soit, faut penser à sa taille adulte. et pour la mettre à l'emplacement idéal, parce qu'évidemment, on achète des bébés dans les pépinières ou dans les jardineries, mais petite plante deviendra grande.
Merci beaucoup Chris. Chris qui nous a appelé au 3216. Vous avez une question pour Patrick Mulan. Allez-y les amis. 3216 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Notez que dans quelques instants, on va parler des agrumes. Donc, profitez-en. Toutes vos questions sur les citrons, les oranges, l'aspect évidemment végétal, hein, comment ça pousse, etc. Faut-il tailler ce type d'arbre? Et puis, on évoquera aussi l'aspect nutritionnel avec le docteur Christian Aika qui sera là. Mais auparavant, eh bien, c'est le conseil de l'expert de cette semaine. Que doit-on faire, Patrick, pour que les pelouses soient belles dans quelques semaines, quelques mois?
C'est-à-dire que déjà, elles sont moches en ce moment. Donc
ça, c'était le bruit d'une tondeuse.
Oui, c'est peut-être, vous c'est pas peut-être un tout petit peu tôt.
Paul a pris son premier son venu. En fait, oui. Il s'est dit, bah tiens, ça, tout le monde va croire que c'est une tondeuse. Ça va passer illico, tu vas voir.
Voilà. Non, je disais que les pelouses sont assez moches en ce moment.
Bah oui, c'est normal.
C'est l'hiver. Mais à cette période-ci, la première intervention que l'on doit faire sur les pelouses, c'est éliminer la mousse. Donc vous avez de la mousse quand le sol est trop humide, quand le sol est mal drainé, c'est-à-dire qu'il est compacté, lorsque vous avez donc de l'ombre, lorsque vous tondez trop court aussi, vous risquez d'avoir de la pelouse, et surtout aussi lorsque le sol est trop acide. Donc si vous avez de la mousse qui a proliféré.
Comment on s'en débarrasse en fait?
On va s'en débarrasser d'habitude. Enfin, disons le truc classique, c'est de mettre du sulfate de fer. Le sulfate de fer, ça vous crame la mousse très rapidement. En revanche, ça a un gros défaut, ça acidifie le sol. Donc en fait, vous faites un mal pour un bien. Donc le mieux, c'est d'extraire la mousse. Alors soit avec un scarificateur, si on a une pelouse relativement importante, donc un scarificateur à moteur qui peut être électrique ou thermique à essence, ou alors avec un râteau scarificateur qui a des dents plates comme des petites lames, de manière à hop, on ressort toute cette mousse. Et derrière ça, on va mettre un engrais avec de la chaux, parce que la chaux, elle, ça va alcaliniser le sol, donc ça va retirer l'acidité qui peut y avoir et qui favorise le développement de la mousse. Et donc ça va vous faire quand même quelque chose d'assez efficace, mais c'est un peu long, hein. Il faut le faire plusieurs fois, recommencer dans la d'année en année, hein, parce qu'on n'y arrive pas d'un coup.
Alors, on écoutait tout à l'heure ce magnifique bruit de tondeuse que Paul a trouvé pour nous. Le printemps donc va arriver dans quelques semaines. Est-ce qu'il faut justement réviser sa tondeuse?
Ça serait bien de la... Alors, vous pouvez la réviser vous-même si vous êtes un bon bricoleur. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, alors, soit on affûte, soit on change la lame, on change la bougie, on change le filtre à air, on fait aussi une vidange. Donc ça, c'est à minima. Le mieux quand même, c'est de confier cette tondeuse à un marchand réparateur de la marque, de manière à ce qu'il vérifie que tout fonctionne très très bien, et puis vous pourrez redémarrer sans aucun problème après avec le printemps.
Tiens, si on parlait d'engrais, Patrick, est-ce que l'apport d'engrais doit se faire maintenant sur les pelouses, ou est-ce qu'il faut attendre encore un peu?
Alors si votre pelouse a redémarré, ce qui peut être le cas dans les régions un peu du midi, où vous avez... On a vu ce matin des températures qui vont atteindre les 20 degrés, et donc forcément que ça active la croissance. Là, vous commencez évidemment à mettre un petit peu d'engrais sur votre pelouse. Alors, il y a des engrais gazon, ça c'est tout à fait bien. L'engrais pour la pelouse n'est pas forcément destiné à la faire pousser.
Oui.
Il est aussi pour la renforcer, pour la faire taler, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle va pousser en largeur.
Parfait. Patrick, on revient dans un instant. Les agrumes, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, hein. Forcément.
On peut en faire des livres.
On va évoquer donc l'aspect végétal, mais aussi l'aspect nutritionnel avec le docteur Christian Aika qui est à nos côtés. RMC 6h25. Toutes vos questions sur les agrumes, les citronniers, les oranges. Alors il y en a d'autres, hein, on va pas tous les citer, mais n'hésitez pas. 3216 ou via l'appli RMC et Direct Studio.
RMC, 6h-7h.
Allô la cuisine? Mais vous me faites un citron pressé pour le B2.
Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Merci.
Gaston, tu veux peut-être une boule citron? Gaston, Gaston, tu veux te tuer du citron, Gaston. Non, non, je ne veux pas du citron.
Alors celle-là, c'est intellectuel. Ouais, ça, celle-là, on va se la garder. Parce qu'elle est vraiment bien.
On va essayer de remonter un peu le niveau quand même. Hein.
Mon cher Patrick, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. Merci d'être avec nous sur RMC. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous laisser vos questions au 32-16. Amina est là et on est connecté aussi sur Direct Studio via votre smartphone. Vous pouvez à tout moment poser vos questions sur les agrumes, le citronnier et autres agrumes avec notre invité Christian Ekia qui est avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour, très heureux d'être là.
Ah, très bien.
Nous allons donc.
Est-ce que vous avez bu un citron pressé ce matin, Christian?
Un citron pressé avec du miel.
Ah. Et de l'eau chaude.
Ah, et de un petit peu d'eau chaude.
Ouais. Un petit peu d'eau chaude.
C'est mon petit déjeuner favori en hiver.
C'est vrai.
C'est
ça fait du bien.
Remarquable.
Ah oui,
alors,
ça.
Une pointe de rhum, non?
Oui, bien sûr.
Une pointe de rhum.
Et un tech-frit aussi.
Très très énervé.
Comme ça, on est bon.
Nature. Alors là, ça serait très 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 pas bon quoi.
Alors, c'est très pas bon. C'est pas mal. On va laisser la parole à Christian dans un instant, mais auparavant Patrick, peut-être qu'est-ce qu'on appelle agrume finalement?
Alors pour les botanistes, un agrume, c'est une plante dont les fruits sont des hespérides, c'est-à-dire qu'en fait dont le fruit est enveloppé par une pelure épaisse, on appelle ça un exocarpe dans notre langage, et qui est scindé en loges. Les loges, c'est les petites tranches que vous avez, par exemple, dans vos mandarines, et donc ça, c'est tout à fait caractéristique. Alors, Hespéride, c'est évidemment une allusion à ce fameux jardin des Hespérides, où il y avait des pommes d'or, et les pommes d'or étaient, en fait, tout simplement des oranges dans la mythologie. Et donc, le mot lui-même, agrume, en fait, c'est les Italiens qui disaient agrumi, et qui donnaient en ancien français aigrune, qui veut dire le fruit aigre, parce qu'évidemment, tous les agrumes ne sont pas d'un goût absolument exquis.
À quelle plante peut-on donner le nom d'agrume, Patrick?
On a dit le citron, mais en fait, c'est toutes les plantes du genre citrus. Hein, donc, le citron, le pamplemousse, l'orange, les mandarines, et tous les hybrides qu'il y a, comme les yuzu, les tangerines, qui sont très à la mode.
Ah, le yuzu,
aujourd'hui.
Tiens.
Et il y a aussi quand même deux autres genres que le genre citrus parmi les agrumes. Vous avez les fortunella, qui sont les kumquats. Les kumquats, qui sont les seuls agrumes que l'on peut consommer avec la peau, hein, donc le
d'accord.
Fameux.
Oui, c'est les tout petits fruits oranges.
Alors on appelle ça des mandarines chinoises,
oui,
par
oui,
exemple,
d'accord.
Etc.
C'est
et
bon,
vous en avez
jamais goûté les kumquats?
Oh, j'adore ça, moi.
C'est très bien.
Exceptionnel. Et comme on mange la peau avec, on a des qualités nutritionnelles remarquables.
Bon, il faut quand même rincer le fruit, j'imagine.
Christian Ekia est un mangeur de peau.
D'ailleurs, il aura notre peau.
Bien entendu, mais ça, on en parlera. Il faut nettoyer les agrumes. Et puis, j'ai oublié. Donc, je sais pas oublié, mais le genre Poncyrus, le Poncyrus, en fait, qui est un arbre épineux, enfin un gros arbuste,
oui, oui.
Que l'on utilise comme porte-greffe, parce que lui, il est extrêmement rustique à l'encontre des autres agrumes. Voilà.
Tiens, dites-nous, est-ce que vous buvez, par exemple, un bon jus de citron le matin? On verra justement si c'est un intérêt nutritionnel. C'est vrai qu'il y a pas mal de fantasmes autour du jus de citron le matin, que ça détoxifie, etc. Enfin bref, on va en parler dans un instant. Est-ce que tous les agrumes sont comestibles, Patrick?
Il y en a aucun qui est réellement toxique, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment difficiles à avaler. Hein. Un bigaradier, vous savez, l'orange amère, le combava, enfin tout ce qui est citrus, Hystrix, le combava, le papeda, même le cédra, on utilise le zeste, la main de Bouddha, là, qui est très 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 jolie comme, on dirait une main en fait, comme fruit, ça a pratiquement pas de pulpe, ou ça peut être vraiment très amer. En revanche, les zestes, si la plante n'est pas traitée, vous pouvez bien sûr la consommer. Puis on a, vous savez, ce petit oranger d'appartement qui s'appelle le calamondin, qu'on voit beaucoup en jardinerie, le fruit, lui, est pas très agréable, mais vous pouvez le cuire, en faire une confiture. Agréable.
D'accord. Est-ce qu'il faut toujours éplucher les agrumes avant de les consommer, Patrick?
Alors, sauf les fortunella, donc les kumquats dont je parlais, qu'on va manger entièrement, les autres, on va retirer le zeste, mais évidemment, on peut être tenté d'utiliser les zestes. Il faut savoir que pratiquement tous les agrumes qui n'ont pas le label bio sont aujourd'hui traités. Ils sont traités avec un ensemble de produits qui sont pas tout à fait innocent. Vous avez le biphényl, qu'on appelle le 230, l'orthophényléphénol, le thiabendazole, enfin les noms sont absolument invraisemblables, et surtout l'imazolil, Limazalil, j'arrive pas à dire tout ça, et c'est un produit qui est considéré comme cancérogène probable. Toutefois, on dit que, enfin, on dit, les autorités disent que il y a des risques que pour les personnes, en fait, qui épluchent toute la journée des citrons ou des oranges pour la conserverie, par exemple, et qui sont en contact direct avec ces produits. Alors,
mais comment on peut appliquer aujourd'hui, en 2019, un produit qui est censé cancérogène sur un produit qu'on va consommer?
Non, vous le consommez pas. Vous le consommez pas parce qu'il n'est pas absorbé. Il est sur la peau seulement. Donc c'est le fait d'être en contact avec. C'est parce qu'en fait, globalement,
est-ce qu'on est sûr qu'il va pas
un citron bio,
qui va pas transpercer la peau et aller après dans l'agrume? Est-ce qu'on en est sûr à 100% de ça?
Vous savez, vous êtes jamais sûr de rien à 100%.
Non, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque et se dire, tiens, on va quand même appliquer un truc qui est cancérogène?
Ça dépend de la position par rapport aux bénéfices, par rapport au risque. Mmh. Vous avez toujours un risque, vous sortez dans la rue, vous avez un risque, mais vous sortez dans la rue quand même. Donc là, c'est pas tellement...
Il n'y a pas d'autres produits moins dangereux, peut-être?
Il y a une recherche permanente pour ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les agrumes, une fois cueillis, moisissent très très vite. Et quand on veut les conserver un tout petit peu à la maison, les agrumes bio, je peux vous garantir que vous ne les tenez pas une semaine à la maison. Donc ça aussi, c'est par rapport aux habitudes de consommation qui fait qu'on est amené à faire ce genre de traitement. Mais ça fait des années qu'on fait ça.
Christian, il faut prendre des agrumes bio, forcément?
Il faut aujourd'hui considérer que ces produits qui sont mis sur la peau sont reconnus comme étant outrageusement cancérogènes pour les enfants. Et provoquant des leucémies. Cela dit, Patrick vient d'expliquer le fond du problème, c'est-à-dire si on veut avoir des produits qui ont une tenue après achat, c'est vrai que nous accusons les agriculteurs de faire des traitements phytosanitaires. Je dis toujours à mes élèves, il est important de comprendre que les produits qui sont tenus après la production, sont des produits qui souvent sont traités, et c'est le produit de traitement après production, donc après l'agriculteur, qui est souvent plus toxique que le produit qui permet de produire en production, en agriculture.
Oui, c'est le produit pour conserver.
Et le produit pour conserver, lui...
Pour qu'il soit beau sur les étals pendant le plus longtemps possible.
Et là, c'est bien...
Même chez vous, qui tienne simplement qu'il soit consommable pendant un certain temps, parce que sinon, c'est pas forcément évident.
Et là, ça permet de dédouaner aussi une grande partie du monde agricole, qui souvent ont des produits qui eux-mêmes sont métabolisés par le fruit, par le légume, et qui disparaît. Donc l'agriculteur, là, n'est pas responsable. C'est le logisticien qui est responsable. Et là, il y a effectivement des recherches qui s'opèrent. Et il y a des techniques modernes aujourd'hui de produits naturels qui vont permettre dans quelques années d'éviter ce souci. Mais là,
on est à la lisière d'un nouveau traitement qui serait moins nocif.
C'est pas aussi facile que ça. Il faut trouver des produits qui ont toutes les qualités possibles imaginables. Et croyez-moi, tous les experts y travaillent. Simplement, c'est pas facile, quoi.
J'aurais tendance à dire que l'imazalil est sans doute le produit qu'il faudrait
éradiquer le plus vite possible.
On est d'accord. Et il y a là aujourd'hui une liste de produits qui sont reconnus comme acceptable, mais l'imazalil, lui, est un produit qu'il faudrait enlever. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que lorsque vous avez l'imazalil dans l'étiquette, quand vous avez acheté le produit, effectivement, c'est pas forcément très bon.
Mais est-ce que la pulpe du fruit a été contaminée par ce produit-là?
Mais vraiment pas. Non, c'est un produit.
Donc, si par exemple, on fait un jus de citron,
c'est la peau, il n'y a pas de diffusion.
Il n'y a pas de diffusion. On est sûr de ça.
On en est sûr depuis le temps qu'on l'utilise. Oui, on en est sûr. En plus, l'imazalil est cancérigène probable. Donc, c'est pas non plus le truc le pire. En revanche, il faut savoir que la législation de la Commission européenne oblige effectivement que les produits qui ont été utilisés comme traitement soient stipulés sur les emballages, sur les sacs d'orange ou de citron. Vous avez obligatoirement le nom des produits qui ont été utilisés. Mais il y a marqué E. Alors l'imazalil, lui, il n'a pas de E quelque chose. Il doit être marqué
intégralement. Et effectivement, ce produit-là est outrageusement cancérogène. Et quand vous avez des enfants de moins de 10 ans, C'est vrai que là, le produit bio a une grande efficacité.
Vous n'avez pas le même discours tous les deux, hein. Christian, pour Patrick, c'est probablement cancérogène. Bah, vous dites outrageusement cancérogène.
Il est classé.
Donc, pas la même chose.
Aujourd'hui, le vrai souci concret, c'est que les personnes ne font pas attention à ces produits. Le vrai souci, c'est que nous avons des faits sur les limazalils. Les autres produits ne m'inquiètent pas. Limazalil, il faut être extrêmement prudent. Donc effectivement, je dirais que quand vous avez des enfants très jeunes,
oui.
Là, le bio est nécessaire.
Les
enfants jeunes sont fragiles à ces produits.
Annie est avec nous au 32-16, messieurs. C'est une question pour Patrick. Bonjour Annie.
Oui, bonjour monsieur.
Annie. Bienvenue Annie sur RMC, fidèle auditrice d'RMC, Annie. On vous écoute.
Voilà, donc moi j'ai un oranger depuis 2 ans et il est couvert de fleurs à la bonne époque. Ensuite, il y a des petits fruits et puis il tombe et il en reste plus que 4, 3 ou 4, bref. Donc je pense qu'il doit être un petit peu à l'étroit. Et donc la question pour Patrick, c'est je voulais savoir s'il faut une terre spéciale et quand est-ce qu'il faut le rempoter.
Et vous êtes dans l'Hérault, Annie, hein, attention.
Oui, je suis dans l'Hérault, Montpellier, oui.
Montpellier.
Alors déjà, il faut savoir, Annie, que une floraison extrêmement abondante entraîne évidemment un éclaircissage naturel, c'est-à-dire que la plante va se débarrasser de l'excédent de sa production pour qu'elle soit capable d'amener ses fruits à maturité. Pourquoi ? Ben, faut pas oublier que les fruits sont quand même les éléments qui contiennent les graines et que dans le cycle normal de vie de la plante, elle doit fabriquer ses graines pour pouvoir se reproduire. Donc, on va dire qu'une chute de petits fruits dans une proportion de 15 à 20%, c'est à peu près normal. Dans votre cas, évidemment, la chute, elle est supérieure. Donc, il y a un problème. Alors, première chose, c'est souvent le manque d'eau qui est la cause la plus habituelle. Vous avez dit que la plante est très à l'étroit. Eh ben oui, évidemment. Donc, si elle a pu elle a pas suffisamment de terre autour de ses racines parce que maintenant l'ensemble des racines occupe tout le volume du pot, eh bien, ça se dessèche beaucoup plus rapidement. Et évidemment, dès qu'il manque un petit peu d'eau, eh ben la plante elle va éliminer ses fruits. Après, il y a aussi ce côté nutritionnel de la plante. Un agrume, ça mange beaucoup. S'il faut le nourrir beaucoup. Donc quand il est trop à l'étroit dans son pot, il a plus rien à manger. Et donc comme il a plus rien à manger, il peut pas amener ses fruits à maturité. D'accord. Donc il les élimine aussi. Mmh. Donc effectivement, vous allez devoir rempoter. L'idéal du rempotage, c'est bien évidemment à peu près cette période-là. Mais souvent, c'est le moment de la floraison. Donc je dirais, attendez plutôt la fin de la floraison et que les fruits soient aussi minuscules que possible pour pouvoir rempoter sans que la plante soit trop stressée. Mmh. Et mettez-la dans un... Alors, il y a des terreaux agrumes dans le commerce, mais ça ne suffit pas. Un terreau agrume doit être mélangé avec de la terre de jardin, parce que c'est une plante qui a besoin aussi d'une certaine consistance dans son substrat.
Messieurs, on revient dans un instant, on va peut-être parler de l'aspect nutritionnel, en fait, hein, des agrumes, du citron, des oranges, etc. On dit que c'est... on fait le plein de vitamine C, est-ce que c'est la vérité ? On voit ça dans un instant, vous pouvez poser vos questions sur ce sujet 32-16, l'appli RMC Direct Studio vous attend, on revient dans une minute, à tout de suite.
32-16 touche 1, réagissez en direct sur RMC.
Mais auparavant, mon cher Patrick, une petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Bérangère que voici. Je voudrais planter cette belle liane qui fait des trompettes oranges en été. Est-ce possible en Auvergne car je n'en vois pas autour de chez moi?
Alors en Auvergne, c'est peut-être un tout petit peu limite, même si c'est une plante qu'on appelle donc le campsis, qui est une plante à peu près rustique. Hein. Bon, c'est une plante qui vient de l'Amérique du Nord ou de Chine, ça dépend de l'espèce, mais les deux se ressemblent énormément. Ce sont des plantes qui vont tenir autour de moins 15 degrés. En revanche, c'est une plante qui a vraiment besoin d'être bien ensoleillé et d'avoir la possibilité d'avoir donc un maximum de lumière, sinon elle ne vous donnera pas la floraison que vous avez besoin. Alors qu'est-ce que l'on peut faire pendant l'hiver si on a une région un petit peu frileuse comme la vôtre? Eh bien c'est de protéger au moins le pied de la plante, éventuellement de tendre un voile d'hivernage le long de cette plante, mais sinon bon, ça devrait vous donner des résultats. Alors comment cultiver ce campsis? Alors, je rappelle quand même pour tout le monde, c'est cette plante qui fait ces belles trompettes orangées pendant l'été. Vous allez la mettre le long d'un mur, de préférence donc un mur qui va être exposé au sud, bien exposé. Vous allez faire un bon trou, changer une partie de la terre pour pouvoir l'améliorer avec un apport de matière organique, parce que c'est une plante qui a besoin vraiment d'être bien nourrie. Et puis après, ça va aller très très bien. Alors chaque année, n'hésitez pas, au démarrage de la végétation, vous retaillez tout ce monde-là assez court, parce que ça pousse, ou du moins ça fleurit sur des pousses de l'année. Donc toutes les branches latérales, on va laisser que deux yeux environ, ça sera vraiment suffisant. Et si vous avez envie, bah, vous pourrez aussi prendre tout ce que vous avez coupé pour en faire des petites boutures et en donner aux amis, ça leur fera plaisir.
Voilà, et 32-16 pour toutes vos questions, on vous attend.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 7h moins le quart, le retour du week-end des experts, le jardin. Dans quelques instants, la météo du jardinier. Patrick a jeté un œil sur les cartes météo de ces prochains jours. Et est-ce qu'on va pouvoir commencer à jardiner, tiens?
Oui, justement. on était un peu frustrés là ces derniers temps.
Et là, voilà, ça y est, c'est parti. Bon, attention, hein, on est que début février, hein. C'est pas encore le printemps. Hein.
Non.
Allez, on revient sur les agrumes. Patrick, et peut-être s'intéresser à l'aspect nutritionnel en fait de ces agrumes.
Oui, parce qu'en fait, c'est quand même les fruits qui sont pratiquement les plus consommés dans le monde aujourd'hui. Et donc, il y a certainement des raison. Christian, est-ce que l'on peut effectivement, comme disait François tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le meilleur apport en vitamine C que l'on peut trouver naturellement?
Il y a toujours des produits qui peuvent apporter plus de vitamine C. Cela dit, le besoin en vitamine C que l'organisme ne sait pas fabriquer est un besoin colossal en hiver, surtout cette année quand nous sommes agressés par des virus et quand nous sommes mal protégés. Quasiment toute la population française a été atteinte par le virus de la grippe cette année.
Même vous.
Et concrètement, Christian, nous devons absolument comprendre que la vitamine C est nécessaire au quotidien en hiver à raison de 75 à 150 mg par jour. Une orange de 100 g vous apporte 35 à 40% des besoins. Donc il faut à 2 à 3 oranges par jour. Il faut aussi comprendre que cette vitamine C a une capacité à vous protéger la peau, à protéger les tissus nobles comme le système nerveux central, comme le tube digestif qui a vraiment besoin de beaucoup d'antioxydants. Les agrumes apportent non seulement de la vitamine C mais également de la vitamine B9 qui est absolument nécessaire pour le fonctionnement cérébral, et les agrumes apportent 20% des apports. Donc les agrumes, c'est un axe capital en hiver. On peut se poser la question, mais que faisaient les Européens dans le Moyen-Âge quand il n'y avait pas ces agrumes?
Ils mouraient
effectivement de scorbut. Rappelez-vous, François, il y a quelques mois, j'évoquais le principe qu'en Europe, le scorbut réapparaissait. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, si vous voulez, des consommateurs qui prennent du jus d'orange, mais où il n'y a pas de vitamine C. Oui. Il y a des consommateurs aujourd'hui qui doivent comprendre que quand vous pressez une orange, concrètement...
Justement, est-ce qu'il faut plutôt la presser ou on achète des jus tout faits, là?
Il faut la presser, il faut le boire immédiatement, car dans les 50 secondes qui suivent le pressage, concrètement, entre guillemets, pardon.
On a tout perdu.
On a absolument tout perdu.
C'est mission impossible,
en
fait.
C'est pour ça qu'il faut vraiment demander un jus d'orange pressé minute devant soi et le boire dans la minute.
Alors, vous parlez d'orange, mais est-ce que le citron, ça a les mêmes vertus?
Oui.
Est-ce qu'on mélange les deux? Est-ce que les clémentines, qui sont plus nombreuses pratiquement que les oranges aujourd'hui, sont aussi bonnes?
Le citron a les mêmes vertus, le pamplemousse a les mêmes vertus, les oranges a les mêmes vertus. L'idée, c'est qu'une orange qui est plutôt sucrée a fini sa maturité en production de vitamine C. Le citron en a un peu plus. Le pamplemousse, c'est variable selon les variétés. J'ai essayé de regarder hier soir les variétés de pamplemousse en fonction de maturité. C'est extrêmement variable. Ce que je dois vous dire simplement, c'est que pour un enfant de moins de 10 ans, il faut 3 oranges par jour dans une journée très froide. Et concrètement, c'est un élément important à intégrer pour les personnes également de plus de 60 ans.
On dit souvent que le citron détoxifie. C'est vrai ou pas?
C'est un terme que je n'emploie jamais sur le plan médical. C'est un terme que je peux comprendre. Les agrumes apportent une réserve de protection de la peau en hiver. Et je dirais que quand vous prenez de la vitamine C sous forme de complément alimentaire, sous forme de 500 mg, on constate que c'est la peau qui en profite immédiatement. Et là, c'est intéressant de dire qu'en hiver, dès que les agrumes arrivent, prenez des agrumes de qualité, 2 à 3 oranges par jour, le matin au petit déjeuner, il y a une très grande cohérence.
Nous avons Gaspard au 32-16, messieurs. Bonjour Gaspard.
Bonjour Gaspard.
Bonjour.
Bonjour Gaspard, bienvenue.
Alors rapprochez-vous de votre téléphone Gaspard pour qu'on vous entende bien et on vous écoute, allez-y.
Oui, alors moi je vous appelle parce qu'il y a 2 ans, on a acheté un citronnier à Menton, dans une pépinière. Mmh. Et quand on l'a ramené, il a fait des fleurs, il commence à faire des petits fruits. Bon, après c'est tout tombé. Et l'année suivante, il a même pas fait de fleurs. Et puis les feuilles sont toutes pâles.
Vous appelez, vous êtes où, dans quel coin, Gaspard?
En Rhône-Alpes.
Ben oui, c'est-à-dire que vous avez pas tout à fait le même climat qu'à Menton. Ça, c'est le problème. Des feuilles très pâles, ça veut dire que la plante a faim. Je disais tout à l'heure à notre précédente auditrice qui nous parlait de ses oranges, que c'est une plante, l'agrume, quel qu'il soit, citronnier, oranger, clémentine, etc., qui est très gourmande. Donc il faut lui donner un pot de bonne taille dans lequel vous avez un substrat nutritif. Faut pas hésiter à renouveler la terre quand la plante est en pot tous les 2-3 ans maximum. Et de fertiliser, donc d'apporter régulièrement de l'engrais liquide. Et comme les agrumes sont des arbres qui sont en végétation toute l'année, eh bien, exceptionnellement, on va les nourrir en permanence. Alors bien sûr, en Rhône-Alpes, s'il fait froid, il y a un blocage quand même de végétation avec une certaine température. Ce sont des plantes qu'il ne faut pas exposer au gel. Mais qu'il ne faut pas non plus mettre dans la maison à 20 degrés pendant tout l'hiver. Parce que l'idéal pour un agrume quelconque, c'est d'avoir une température hivernale qui se situe entre 5 et 12 degrés. Là, vous êtes au top et la plante continue à être bien bien en forme. Nous, on met nos agrumes dans la véranda et il y fait entre 8 et 15 degrés et les plantes, elles sont absolument parfaites. Quand vous n'avez pas cette possibilité-là, eh bien, vous devez, par exemple, comme François le fait sur sa terrasse, vous emmailloter avec le voile d'hivernage
le petit pyjama.
Vos agrumes. Oui, le petit pyjama de Monsieur François Sorel, enfin celui de ses citronniers.
Oui, parce que c'est pas le mien.
Vous avez donc une protection suffisante. Si jamais vous avez une température qui descend largement en dessous de -7, -8 degrés, là, vous pouvez rentrer, notamment pour la nuit, la plante dans une pièce peu chauffée de la maison. La difficulté en hiver, c'est de conserver une plante qui va être à un moment donné dehors, à un moment donné dedans. Ça, c'est ce que font la plupart des gens, mais on appelle ça un peu la douche écossaise. Vous passez de 5 ou même 5-6 degrés dehors à 20 degrés dedans, ça lui fait perdre souvent ses feuilles, ça le fait décolorer. Donc dans votre cas, nourrissage, peut-être en potage, il y a peut-être déjà besoin, et puis vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Et pour obtenir cette fructification, il faut effectivement que la plante, elle n'ait pas été hivernée pendant disons l'hiver, évidemment, hiverner pendant l'hiver, à la maison. Il faut qu'elle ait eu frais. Ça, c'est très important.
Patrick, on referme notre volet agrumes, même si on avait encore plein de choses à raconter, mais
2000 choses.
L'heure tourne, 6h53, la météo du jardinier, parce que je sais que vous attendez avec impatience ce rendez-vous en ce samedi 16 février 2019. Un avant-goût de printemps, Patrick, dans les jours qui viennent.
Oui, ça va aller assez vite, la météo, parce qu'il va faire pratiquement beau toute la semaine. Donc vous allez avoir à peu près les mêmes configurations qu'on a déjà depuis un jour ou deux. Fraîcheur le matin et soleil, alors très beau soleil dans les premiers jours de la semaine. Après, on aura un peu plus de nuages, mais ça va monter en température. On va dire pratiquement, on va pas gagner 1 degré par jour, mais tous les 2 jours, on risque de gagner 1 degré de moyenne. Pour finir en fin de semaine autour de 14-15 degrés partout en France, enfin en pleine, je m'entends, dans la journée. Donc c'est vraiment le moment pour jardiner. Donc vous pouvez planter plein de choses, les vivaces, les arbustes, les petits fruits, même, alors les pommes de terre, attendez quand même, on avait dit que le sol soit à 10 degrés. Profitez aussi de ce côté un peu printanier pour planter des pensées, pour planter des primes vertes, donner un petit peu de couleur à votre jardin. Et puis, on va commencer à ressortir la binette. Il va falloir désherber un petit peu les allées.
Non, mon citronnier, je laisse tranquille là. Je le remets...
là, vous le laissez tranquille, puisque vous êtes sur Paris-Intramuros, il n'y a pas de gel annoncé. Donc, en plus, vous l'avez rapproché de la maison, donc il est bien. Je pense qu'il doit être bien.
Comment, Non, il est bien, il est ouvert, il est sympathique.
Tout va bien. Donc, et on peut commencer pour les potagers, hein, quelques semis sous abri notamment. N'hésitez pas à faire ça. Et puis terminer très rapidement maintenant la taille des arbres fruitiers. Commencer en revanche la taille de la vigne, la taille des rosiers. Et puis peut-être la taille des pêchers. Je rappelle, les pêchers, on les taille au stade de bouton rose. C'est-à-dire qu'il faut que les fleurs commencent à vous dire « je vais arriver ». On commence à voir la petite couleur. Voilà.
Voilà pour la météo du jardinier. Patrick, on termine avec votre coup de cœur de ce samedi matin. Alors
déjà un coup de cœur pour une exposition qui a commencé le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. C'est à Paris, c'est au Muséum d'Histoire Naturelle. Ça s'appelle « 1001 orchidées ». C'est la 7e année que ça se déroule dans les grandes serres où des producteurs d'orchidées ont accroché des centaines d'orchidées un petit peu partout dans cette ambiance complètement tropicale. C'est absolument magnifique. Ça vous dépayse complètement. Et puis bien entendu, il y a des professionnels et des passionnés de certaines associations qui sont là pour vous parler orchidées, pour vous donner des conseils sur vos propres orchidées, et même vous allez pouvoir en acheter si vous avez envie. Et puis je terminerai avec le coup de cœur aussi du jour au niveau de la librairie, un livre qui est peut-être un tout petit peu ardu mais qui est génialissime, c'est Sous la forêt de Francis Martin chez Humaine Science. C'est un livre qui vous parle du relationnel qu'entretiennent les arbres avec les champignons. Et là, on est nettement au-dessus au niveau qualité d'information du fameux livre de Peter Wolleben qui a fait un malheur et qui a vraiment été un succès, mais dans lequel moi j'avais critiqué le côté anthropomorphique. Non, là vous avez un livre de scientifique, un livre dans lequel on vous raconte comment les plantes s'expriment, comment les plantes font des vrais mariages avec les champignons, comment les champignons peuvent complètement couvrir l'ensemble du sol forestier pour faire des intercommunications entre les végétaux eux-mêmes. Je peux vous dire, c'est absolument super. Et on vous parle même de la communication des plantes elles-mêmes avec ce qu'on a déjà vu, tous ces COV qu'on appelle, ces composés organiques volatiles que les plantes émettent quand elles sont en danger. Voilà, génial.
Super.
Donc, Sous la forêt, Francis Martin, Humaine Science.
Patrick, merci. On se retrouve samedi prochain.
Eh bien écoutez, c'était un plaisir. Je vous embrasse les jardinières, ma petite jardinière bien sûr, et à la semaine prochaine.